pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Voici pourquoi la liberté de la presse est super importante. Un texte de Camille Lopez, paru le 30 avril 2025 dans les As de l'info. Le samedi 3 mai, c'était la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle servait à rappeler à tous l'importance du travail des journalistes qui doivent pouvoir informer le public sans avoir peur d'être punis. Mais ce n'est pas respecté partout. Voyons à quoi ça ressemble sur la planète. Pourquoi c'est important une presse libre? Parce qu'il faut savoir ce qui se passe autour de nous. L'information fiable nous permet de pouvoir participer aux débats de société et à s'assurer que les gouvernements soient tenus responsables de leurs actes. La liberté de la presse dans le monde. Chaque année, l'organisation Reporters sans frontières évalue la santé de la liberté de la presse partout sur la planète. Des journalistes en danger. Dans certains pays, comme l'Arabie saoudite et l'Afghanistan, les gouvernements s'attaquent aux médias. C'est un moyen de contrôler les informations qui sont publiées à leur sujet. En 2025 seulement, 555 journalistes ont été emprisonnés et 15 tués, selon Reporters sans frontières. C'est particulièrement dangereux à Gaza. Depuis le début de la guerre contre Israël en octobre 2023, plus de 170 journalistes gazaouis ont perdu la vie, pris dans les affrontements ou volontairement visés par des attaques. Ça a aussi des conséquences sur nous. On a moins d'infos sur ce qui se passe là-bas. Tension aux États-Unis. Depuis des années, le président américain Donald Trump traite les journalistes d'ennemis du peuple. Il les accuse aussi de créer des fausses nouvelles. Et parce que l'Associated Press, une agence de presse crédible, continue de désigner le Golfe du Mexique par ce nom, alors que Trump l'a rebaptisé Golfe d'Amérique, ses journalistes ont été bannis de son bureau. Il intimide aussi régulièrement les journalistes qui le critiquent sur les réseaux sociaux, en plus d'avoir pardonné des gens qui ont été reconnus coupables d'avoir agressé des journalistes. Et au Canada? La liberté de la presse est généralement respectée au pays. Mais tout n'est pas parfait. Le mois dernier, la chaîne de télé CTV a renvoyé Rachel Gilmore, une journaliste qui avait pour mission de vérifier les faits pendant la campagne électorale. La raison? Le réseau a cédé après avoir été enseveli de messages négatifs de partisans du Parti conservateur du Canada qui demandaient son renvoi. Petit réconfort, Rachel a été invitée dans d'autres médias pour en parler et a reçu une grande vague de soutien. Un peu de positif. Malgré l'intimidation qu'ils subissent, les journalistes américains continuent de faire leur travail. Par exemple, le magazine The Atlantic a publié un gros dossier qui a mis le gouvernement Trump dans l'embarras et qui a fait jaser partout sur la planète. Au Québec, on célèbre le journalisme lors d'un nouveau festival qui se déroule en mai en Gaspésie. Et surtout, on voit que toi, tu t'intéresses à l'information. Aux As de l'info, on compte presque 20 000 inscrits. Tu lis et commentes les articles sur la politique, le sport et plein d'enjeux qui te touchent de près ou de loin. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Sa mission, protéger tous les enfants du Québec. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 1er mai 2025 dans les As de l'info. Marie-Ève Brunet-Kitchen. C'est un nom que tu risques d'entendre dans le futur. Son travail? Être la porte-parole et la protectrice de tous les enfants du Québec. Elle a accepté officiellement cette mission lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale du Québec mercredi. Et le seul média invité était les As de l'Info. Je te raconte en exclusivité ce moment très spécial. Une première. Le gouvernement du Québec a cherché la perle rare pendant un an et il l'a trouvée. C'est Marie-Ève Brunet-Kitchen qui a été choisie pour devenir la toute première commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Elle ne portera pas de cap et n'a pas de super-pouvoir, mais c'est tout comme. Dès le 12 mai, elle mettra tout son cœur et son énergie dans le bien-être des enfants de la province. Elle a composé un message destiné aux jeunes pour t'expliquer son nouveau rôle. À vous, les enfants et les jeunes au Québec, je fais ce serment. Je vous promets d'être réellement à l'écoute de vos réalités, de défendre avec force vos droits et de travailler avec détermination pour que vous ayez tous les moyens de grandir dans un environnement juste et bienveillant. Je m'engage à vous accompagner dans vos luttes, qu'elle soit contre l'injustice, l'indifférence ou la solitude, à être une alliée fidèle afin de mobiliser toutes les personnes concernées pour que vous soyez vus, entendus et respectés. Je ne serai pas une voix qui parle pour vous, mais une présence qui parle avec vous pour que vos combats et vos espoirs deviennent des priorités pour notre société. Je fais cette déclaration pour vous, et pour le présent et l'avenir que vous méritez. À la cérémonie, le 30 avril, Marie-Ève a été assermentée, c'est-à-dire qu'elle a promis de faire son travail avec honnêteté. Une cérémonie officielle à l'Assemblée nationale, dans le magnifique bureau de la présidente de l'Assemblée, Nathalie Roy, c'est très impressionnant. Mais quand la future commissaire porte une jupe de Snoopy, on sait que ça se passera dans la bonne humeur. La cérémonie est très courte. Devant ses enfants, Antoine, 12 ans, et Héloïse, 9 ans, son mari et quelques amis, Marie-Ève a lu un texte officiel qu'elle a ensuite signé avec Madame Roy. Voilà, c'est fait. « Je suis tellement fière », dit Antoine à propos du nouveau travail de sa mère. Héloïse ajoute: tous les enfants ont besoin de quelqu'un pour les soutenir. Tous les enfants méritent du bonheur et de l'amour. Est-ce qu'ils ont des conseils pour Marie-Ève? Qu'elle soit avec les enfants comme elle est avec nous, répond Héloïse. Au boulot. Après la cérémonie, Marie-Ève m'a parlé de ses projets. Entre autres, elle veut informer les enfants de leurs droits. Quand on les connaît, il y a plus de chances qu'on les fasse respecter. Je veux surtout consulter et écouter les jeunes, qu'ils participent aux décisions du gouvernement qui ont un impact sur eux. Ce sont eux, les experts. J'ai envie de dire qu'ils sont mes patrons. Marie-Ève ou Mary Poppins? Antoine et Héloïse ont trouvé une façon très simple d'expliquer le travail de leur maman commissaire. Elle est un peu comme le personnage de Mary Poppins. Elle est au service de tous les enfants, mais elle apparaît quand un enfant a besoin d'aide. Malheureusement, Marie-Ève ne peut pas observer tout ce qui se passe assise sur un nuage comme Mary Poppins. Pour savoir ce qui préoccupe les enfants et prendre les bonnes décisions avec eux, elle aura besoin d'une équipe qui ira partout dans la province. Quel enjeu touchant les enfants aimerais-tu qu'elle règle le plus rapidement possible? Les habitants de l'eau. Un texte paru dans le numéro 456 du magazine Les Débrouillards. Les jeunes toffinus apprennent à nager et à ramer très tôt car toute leur vie se déroule sur un lac. Bienvenue dans un des villages lacustres du Bénin. Des survivants de l'esclavage. Il y a plus de 300 ans, les Européens faisaient le commerce d'esclaves. des millions d'humains ont alors été capturés en Afrique pour être vendus comme esclaves en Amérique. La majorité mourait avant même d'atteindre le continent. Afin de fuir cet horrible commerce, les Tofinus se sont réfugiés sur les rivières et les lacs. Selon la légende, pour avoir la permission d'habiter sur le lac, les Tofinus ont fait un pacte avec le crocodile et l'épervier. Depuis, ces deux espèces sont devenues sacrées pour ce peuple. Attention, inondation. Les Tofinus habitent dans des maisons sur pilotis. Normalement, les maisons restent bien au sec, mais en 2010, le lac Nokwe a débordé et toutes les maisons de Ganvier ont été inondées. Les habitants ont placé leurs effets personnels sur les toits. Pendant un mois, ils ont vécu sur leurs embarcations. À cause des changements climatiques, d'autres inondations pourraient survenir. Une maison sur pilotis est une maison construite au-dessus du sol ou de l'eau. Elle est soutenue par des piliers ou des pieux. Grandir sur l'eau. Chaque matin, David, 11 ans, se lève vers 5 heures. Après sa douche, il prend un déjeuner composé de riz ou de bouilli de maïs ou d'igname, un légume. Puis, il saute dans sa pirogue et rame pendant 30 minutes pour se rendre à l'école. Dans ses temps libres, David aime beaucoup jouer au soccer sur les petits îlots artificiels qui ont été construits dans la ville. Son rêve? Devenir directeur d'école. Une plante invasive. Un des gros problèmes des Tofinus, c'est la prolifération de la jacinthe d'eau. Avec ses bulbes remplis d'air qui lui servent de flotteur, cette plante se propage rapidement sur les lacs et les rivières. Lorsqu'elle est trop abondante, la jacinthe consomme une grande partie de l'oxygène nécessaire aux poissons. Elle bloque aussi les moteurs des bateaux. De plus, elle aggrave les inondations en empêchant l'écoulement de l'eau vers la mer. Heureusement, des scientifiques du Bénin ont trouvé des pistes de solutions. Transformer la jacinthe d'eau en biocarburant ou l'utiliser pour tresser des paniers. Des champs de poissons. Les Tofinus ont observé que les poissons abondent entre les racines des palétuviers, les arbres des mangroves. Pour imiter cet écosystème, ils plantent des feuilles de palmier et des tiges de bambou dans la vase. C'est la technique des acadjas. Ces habitats artificiels permettent aux Tofinus de pêcher davantage de poissons. L'autobus. Très tôt le matin, de longues barques font office d'autobus. Elles transportent les élèves qui fréquentent l'école construite sur une île artificielle. Le puits. L'eau du lac est maintenant polluée. Pour s'approvisionner en eau potable, les habitants remplissent des bidons à une source. L'école. Elle est composée de plusieurs bâtiments construits sur une île artificielle. Au centre de la cour, les jeunes jouent au soccer. Station-service. Pour naviguer sur le lac, certains bateaux ont des moteurs. Mais pour faire le plein d'essence, il n'y a pas de station-service. L'essence est vendue dans des bouteilles de plastique au village. Les bateaux à voile. Lorsqu'ils veulent sortir de la ville, les Tofinus accrochent souvent un grand morceau de tissu à un mât. Pas besoin d'utiliser le moteur. le marché flottant. Les femmes s'occupent du commerce. Ces marchandes tiennent un kiosque sur une pirogue. Pour servir du café ou des beignets chauds à leurs clients, elles chauffent leur chaudron avec des bonbonnes de gaz ou des feux de bois. Tout un défi sur des bateaux en bois. L'auberge. Il est possible de séjourner dans la ville de Ganvier. Mais comme il y a beaucoup de moustiques qui peuvent transmettre une maladie appelée paludisme, on dort sous une moustiquaire. Dans les fissures du plancher, on voit l'eau du lac. La fête du village. Chaque année, c'est la fête de l'eau. Des toffinus du Bénin et des pays voisins se réunissent pour discuter, danser et boire du vin de palme. C'est une boisson obtenue à partir de la fermentation de la sève de palmier. À la fête, tout le monde semble habillé pareil. Les habits sont cousus sur mesure avec le même tissu. De grands défis. Les défis urbains sont grands dans la ville de Ganvier, qui compte plus de 20 000 habitants. Que faire des déchets? Comment éviter que les toilettes ne contaminent l'eau du lac? Comment s'approvisionner en électricité? Des scientifiques étudient Ganvier pour comprendre comment les villes du monde pourraient s'adapter à la montée des eaux. Qui veut ma peau? Un texte paru dans l'édition d'avril 2025 du magazine Corium. Prendre soin de sa peau, bonne ou mauvaise idée? Tout dépend de l'intensité. Un gel démaquillant suivi d'un savon doux, puis d'un sérum, d'une crème hydratante, d'un baume à lèvres, d'un soin anti-poche sous les yeux et d'un masque à la lumière rouge. Sur les réseaux sociaux, des milliers de vidéos exposent ce genre de rituel beauté. Devant leur collection de petits pots, des influenceuses et des influenceurs expliquent comment faire disparaître rougeurs, taches ou autres imperfections tant redoutées. Des vidéos de skincare destinées aux adultes jusqu'à ce qu'un nouveau public s'y intéresse. Des jeunes s'abreuvent de ces contenus parfois même avant l'apparition de leur premier bouton. Un phénomène surnommé les Sephora Kids. La beauté dans la peau. D'où vient cette tendance? Des petits-enfants du clan Kardashian qui rajeunissent l'audience en partageant leur routine beauté en ligne. Des filtres qui magnifient le teint sur les photos et vidéos. Chose certaine, cet intérêt des jeunes pour le skincare n'est pas passé inaperçu. Les compagnies ont rapidement flairé la bonne affaire. La peau des fesses. Derrière la tendance du skincare, il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Aucun créateur de contenu ne peut subsister à long terme s'il n'est pas commandité, soutient Nelly Brière, stratège en communication marketing. Oubliez les publicités classiques avec un logo de compagnie bien en vue. Ce sont maintenant les influenceurs et les créatrices de contenu qui jouent les intermédiaires entre les marques et le public. L'objectif de ces compagnies, c'est de vendre, poursuit-elle. Elles ont donc tout intérêt à ce que vous achetiez 12 petits pots plutôt que 2 ou 0. La stratégie des fabricants? Envoyer des échantillons de tous leurs produits afin que les vedettes du web les utilisent devant la caméra. Parfois contre un cachet, mais pas toujours. Cette réalité commerciale, la maquilleuse et créatrice de contenu Cynthia Dulude en est bien consciente. Ses contenus beauté sont suivis par des centaines de milliers de personnes. L'industrie est tellement foisonnante que je pourrais essayer de nouveaux produits chaque jour. Je ne manque pas de job. Buzz stratégique. Sur le web, l'engouement autour d'un produit n'est pas toujours spontané. Une équipe de marketing a souvent tout orchestré en coulisses pour que leurs produits se glissent subtilement dans les contenus. Si une influenceuse dit que c'est le meilleur gloss qu'elle a essayé de sa vie, peut-on la croire? Selon la loi sur la concurrence, elle doit en effet déclarer si un produit lui a été envoyé par une compagnie et si elle a été rémunérée pour en parler. Il est toutefois difficile d'assurer que cette règle est toujours respectée. Épiderme fragile. Selon la docteure Justina Grigis, dermatologue à l'hôpital de Montréal pour enfants, ces produits ne sont pas conçus pour votre groupe d'âge, ni testés sur votre peau plus mince et donc plus sensible. Les ingrédients peuvent ainsi entraîner plus de réactions, inflammation, irritation, réactions allergiques, eczéma. C'est ironique car l'utilisation de ces produits peut mener aux problèmes qu'on cherche justement à éviter. On voit beaucoup de jeunes filles à la peau saine qui développent des problèmes d'acné après avoir utilisé trop de crème et de maquillage. Les ingrédients des différents produits peuvent interagir entre eux et causer des effets secondaires. Les stars du web n'ont pas toujours l'expertise requise pour anticiper ces conséquences indésirables. Miroir, miroir. L'adolescence est une période délicate sur le plan de l'image de soi. On est en pleine quête identitaire, on se compare aux autres, on est avide de reconnaissance et de commentaires positifs, dit la docteure Stéphanie Léonard, psychologue et fondatrice de l'organisme « Bien avec mon corps ». Selon elle, le désir de suivre la même routine que tout le monde serait plus important que l'envie d'avoir une belle peau. Si c'est cool de faire ça et que moi je ne le fais pas, est-ce que je suis cool? Courber ses cils, s'épiler, prendre soin de sa peau, ce sont des rituels auxquels la société accorde une valeur positive. Ils nourrissent un idéal inatteignable. Inatteignable? Parce que la pub nous conditionne à croire que l'apparence est une priorité et que toute imperfection doit être enrayée à coups de sérum. Bâtir son estime de soi sur l'apparence physique, c'est un pari risqué. D'autant plus que la peau est influencée par une foule de facteurs hors de notre contrôle, notamment la puberté et la génétique. Notre face est vivante. On ne peut pas empêcher les changements, dit la créatrice de contenu, Cynthia Dulude. Les crèmes ont leurs limites. Vive la modération. Que faire alors? Balancer tous nos petits pots aux ordures? Pas nécessairement. Il faut d'abord oublier l'idéal de la peau parfaite. Ça n'existe pas. Des filles m'ont déjà demandé comment on fait pour enlever les pores de la peau, raconte Cynthia Dulude. C'est fou. À titre de rappel, seules les poupées n'ont pas de pores. Ils sont essentiels pour libérer la sueur et le sébum. La routine skincare de Corium. 1. Nettoyez votre visage avec un savon doux. 2. Utilisez une crème hydratante adaptée à votre peau. 3. Mettre une protection solaire et éviter de trop vous exposer au soleil. C'est tout. C'est tout. Mais l'industrie n'a pas intérêt à ce que vous le sachiez. La peau doit respirer. Ce sont les poumons qui font ça. La peau a besoin d'être exfoliée une à deux fois par semaine. Inutile, la peau se régénère naturellement par elle-même. Le contour des yeux a besoin d'une crème spécifique. Ce n'est souvent qu'un hydratant dans un minuscule tube au prix gonflé. Plus c'est cher, mieux c'est. Il n'y a aucun lien entre le prix et la qualité. Il faut se démaquiller tous les soirs. Aucune étude scientifique n'a démontré que ne pas se démaquiller le soir provoquerait rides de vieillissement prématuré de la peau ou apparition de boutons. Quand la science répond à la pub. Après la parution de son livre choc The Skincare Hoax, traduction La supercherie des soins de la peau, en 2022, la dermatologue américaine Fainel Frey est devenue une référence en matière de soins de la peau. Des citoyens du Nunavik en colère de ne pas avoir pu voter. Un texte de Gilles Labelle paru le 30 avril 2025 dans les As de l'Info. Lundi, lors des élections fédérales, de nombreux citoyens du Nunavik, dans le nord du Québec, n'ont pas pu voter. Dans plusieurs villages, des bureaux sont restés fermés toute la journée ou ont fermé beaucoup plus tôt que prévu. Pourquoi? À cause d'un manque de personnel ou de la météo. Lundi, des électeurs du Nunavik se sont déplacés pour rien. En arrivant devant leur bureau de vote, ils ont trouvé des portes closes. À Ivoudjivik, par exemple, le seul bureau de vote n'a jamais ouvert et le matériel électoral, bulletin de vote, boîte pour déposer les bulletins, n'était même pas arrivé sur place. Élections Canada explique avoir eu du mal à recruter du personnel et à livrer le matériel à temps. Des employés venant de l'extérieur sont aussi repartis plus tôt que prévu en raison du mauvais temps annoncé. Pour beaucoup d'électeurs de la région, ces explications ne suffisent pas. La frustration est grande, surtout parce que ce n'est pas la première fois que des problèmes empêchent les habitants du Nord de participer aux élections. Dans une région où l'accès aux services est déjà plus compliqué qu'ailleurs, ces ratés sont vécus comme une injustice. Plusieurs demandent maintenant des solutions, comme former plus de personnes sur place pour les élections au lieu de faire venir des employés de loin. Ou offrir la possibilité de voter en ligne en cas de problème météo. Beaucoup rappellent que, peu importe où l'on vit au Canada, chacun devrait avoir la même chance de faire entendre sa voix lors des élections. Mais ces bureaux de vote fermés, ce sont des voix oubliées. À ton avis, y a-t-il un moyen de réparer cette injustice, même si le vote est terminé? Que pourrait-on faire? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.